On continue sur les ondes de Choc FM 105.1 avec notre spécialiste de la politique américaine, c'est Vincent Gosselin que j'ai le plaisir de rejoindre maintenant. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Lorrain.
Alors, avec cette élection quasiment historique, le suspense est un petit peu extraordinaire en Géorgie en ce moment pour les élections sénatoriales américaines. Les démocrates croient à la victoire à l'heure où on se parle, avec au moins un siège qui pourrait être emporté. Est-ce que vous voulez revenir pour nous et pour nos auditeurs, Vincent, sur ces résultats des élections sénatoriales en Géorgie, encore une fois au moment où on se parle?
Oui, tout à fait. Premièrement, c'est rare d'avoir deux élections sénatoriales en même temps. Ce qui explique cela, c'est qu'il y a une élection partielle en ce moment suite à la démission d'un sénateur en 2019. Le gouverneur avait nommé Kelly Loeffler pour jusqu'au prochain cycle électoral. Donc maintenant, il y a une élection partielle et ce sera pour la durée restante du mandat, 2 ans pour un des deux sièges. Pour l'autre, c'est une élection tout à fait normale. Actuellement, à l'heure où on se parle, le démocrate Raphaël Warnock, qui est un pasteur de 51 ans, a défait la sénatrice nommée en 2019, Kelly Loeffler. Donc, M. Warnock deviendra le premier sénateur noir de la Géorgie et il sera en réélection en 2022 parce que c'est pour la fin du mandat qui est de 6 ans normalement et là, ce sera pour les deux dernières années. Et du côté de l'autre course sénatoriale, John Ossoff, le démocrate, est en avance, une avance assez mince de 16 000 voix sur le sénateur républicain David Perdue. Il reste à voir encore, là, aucun média, à l'heure où on se parle toujours, là, n'a déclaré la victoire de John Ossoff. Ça reste à voir encore et à confirmer aujourd'hui. Ça se développe encore. Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième tour? C'est la question qu'on pose. C'est tout simplement qu'il y a une règle spéciale en Géorgie où on doit avoir 50% plus un des voix pour être élu. Et donc, au premier tour, qui était une primaire ouverte le 3 novembre, aucun candidat, et il y avait eu plusieurs candidats parce que c'était une primaire ouverte, aucun candidat n'avait obtenu cette barre magique de la majorité absolue. Et c'est seulement la Géorgie et la Louisiane qui ont cette règle spéciale-là. Mais vous le disiez très bien, ça prend une ampleur nationale, cette élection sénatoriale. C'est crucial parce que ça va décider du contrôle du Sénat. Donc, le parti qui détiendra la majorité, avant l'élection, c'était 52 républicains contre 48 démocrates. Et ça pourrait devenir 50-50. Donc, 50 sénateurs des deux côtés si les démocrates remportaient les deux sièges. Il y aurait un bris d'égalité qui serait fait par la vice-présidente Harris. Donc, on considère que les démocrates dirigeraient le Sénat. Donc, ce qui se passe actuellement, on va aussi surveiller le taux de participation. Je vous dis, là, en ce moment, c'est surtout une question de taux de participation. La stratégie de Donald Trump a été de critiquer le système électoral en Géorgie. On l'a vu lors de son rallye lundi soir. Mm-hmm. Ça pourrait peut-être mener à une baisse de la confiance des républicains et donc de la baisse de la participation des républicains pour ces élections parce qu'il a semé de gros doutes sur l'intégrité du système électoral, tout simplement, en Géorgie, alors que ce sont évidemment des faits non fondés, mais ces républicains pourraient avoir eu tendance à sortir en moins grand nombre votés que normalement. Et c'est l'inverse pour les démocrates. On connaît Stacey Abrams, qui est une afro-américaine démocrate fort connue en Géorgie. On dit qu'elle est l'argentière des bons résultats de Biden dans cet État en novembre. Elle a énormément travaillé au cours des dernières années pour enregistrer des nouveaux électeurs, entre autres des communautés culturelles, sur les listes électorales. Et Mme Abrams avait d'ailleurs brigué le poste de gouverneur de la Géorgie en 2018. Elle avait perdu, mais avait obtenu de bons résultats. Et actuellement, ce qui explique tout ça, c'est la démographie de la Géorgie qui change. Elle est maintenant devenue un État pivot, tout simplement, parce que l'État se diversifie et le poids des banlieues prend aussi de l'expansion. Donc, c'est actuellement le panorama qu'on a en Géorgie pour ces élections sénatoriales. Ça se développe toujours. Peut-être qu'au moment d'entendre la chronique, on aura un vainqueur pour l'autre siège sénatorial, mais actuellement, les deux démocrates, un élu, l'autre en avance. Ça s'annonce très bien pour M. Biden, qui c'est le meilleur scénario qu'il aurait pu espérer.
Absolument, Vincent, merci pour ces explications sur ce système particulier et cette double élection sénatoriale aujourd'hui. D'ores et déjà, je pense qu'on peut parler d'un événement historique puisque la Géorgie, c'est un État qui a longtemps été ségrégationniste et c'est donc la victoire d'un Afro-Américain pour la première fois dans cet État avec M. Raphaël Warnock qui marque aujourd'hui cette élection. On revient également sur quelque chose qui a été développé la semaine dernière, cet appel téléphonique fameux entre Donald Trump et le secrétaire d'État de la Géorgie, justement, qui a fait beaucoup réagir, un appel qui a été rendu public. Est-ce que Donald Trump a enfreint la loi en demandant à ce qu'on lui trouve des voix, en quelque sorte, en Géorgie?
On ne sait pas encore si Donald Trump a enfreint la loi. Ce sera à voir et c'est de l'interprétation juridique à ce moment-là, parce que premièrement, ça a eu l'effet d'une bombe dimanche. C'est le Washington Post qui a rendu en premier l'enregistrement public. C'est un appel téléphonique qui s'est fait samedi entre Donald Trump, le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger. Celui-là, c'est l'élu républicain en charge d'organiser les élections dans l'État de la Géorgie. Et l'appel dure un peu plus d'une heure. On entend Monsieur Trump à la fois flatter M. Raffensperger pour tenter de le convaincre de changer les résultats de l'élection présidentielle et en même temps l'aviser de possibles recours judiciaires s'il ne le fait pas. M. Trump demande dans l'appel, et c'est très clair, il dit « Trouvez-moi 11 780 votes républicains. Pourquoi 11 780? C'est un vote de plus que la marge par laquelle Joe Biden a remporté la Géorgie. Donc, il voudrait renverser le résultat dans l'État. Et c'est bien le mot « trouver » qu'il emploie. Donc, je ne peux pas vous dire s'il enfreint la loi ou pas, mais ce sont certainement des considérations que des juristes vont faire aux États-Unis, surtout après sa présidence, après le 20 janvier, parce qu'il a actuellement une immunité présidentielle. Et on a senti tout au cours de l'appel un Donald Trump qui semble un peu désespéré, parce que c'est une des dernières tentatives qu'il peut pour tenter de garder le pouvoir. Mais le secrétaire Raffensperger a été ferme tout au long de l'appel. Il a rappelé à M. Trump que la Géorgie a enquêté sur les allégations de fraude, qu'il y a eu aussi un recomptage à la main et qu'aucun problème n'a même été rapporté avec les machines qui étaient utilisées pour compter les bulletins de vote. Donald Trump critique entre autres ça. Donc rien n'a été trouvé pour soutenir moindrement les allégations, mais Donald Trump, ça l'a empêché quand même de continuer d'affirmer qu'il a remporté à la fois la Géorgie et l'élection présidentielle. Mais il faut le rappeler, c'est pas du tout le cas. Les faits démontrent totalement le contraire.
Voilà, et puis cette journée du mercredi 6 janvier est décidément très dense en actualité du côté de notre voisin américain, puisque c'est aujourd'hui que le Congrès se réunit pour certifier les résultats de cette fameuse élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Vincent?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le nouveau Congrès a été élu en novembre, et il a été assermenté dimanche, donc tout fraîchement assermenté. Il se rassemble aujourd'hui, cet après-midi, dans une session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, à l'heure où vous entendez la chronique, le processus est en cours. Il s'agit de l'étape de la certification des résultats. C'est vraiment la dernière étape du long processus électoral. Donc, les représentants et les sénateurs vont compter état par état les résultats du collège électoral qui s'est rassemblé et a voté le 14 décembre dernier dans leurs états respectifs. Donc, c'est aujourd'hui que tout ça va s'officialiser, même si c'est une formalité à la base. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que des élus s'opposent aux résultats de certains États. Il y a d'ailleurs un groupe d'au moins 12 sénateurs républicains menés par Ted Cruz du Texas qui entend contester les résultats. Mais ça, donc, c'est tout à fait possible. C'est prévu dans la loi que des élus puissent s'opposer ce jour-là aux résultats dans certains États. Et pour que l'objection soit formelle, et ça, c'est une nuance importante, il faut qu'elle soit déposée par écrit et signée par au moins un sénateur et un représentant. Donc, si ça se produit, qu'est-ce qui va arriver? Tout simplement, les deux chambres vont se séparer, débattre chacune de leur côté pendant maximum 2 heures, et finalement vont voter séparément sur l'objection. Il faut que les deux chambres acceptent la contestation pour que le résultat de l'État en question soit rejeté. Mais quand on considère la majorité démocrate à la Chambre d'un côté et de l'autre, le fait que plusieurs républicains reconnaissent déjà la victoire de Joe Biden, ben, il n'y a rien qui risque d'être renversé. Et quand l'objection est rejetée, on poursuit le décompte état par état. Puis, si c'est pas présenté par écrit, c'est juste une protestation orale d'un sénateur, ce sera pas reconnu comme étant formel. Alors, en janvier 2017, le Congrès avait pris moins d'une heure pour approuver la victoire de Donald Trump, mais ça risque d'être plus long cette fois-ci, puisque des sénateurs et des représentants ont déjà affirmé qu'ils entendent contester. Puis, d'ailleurs, toujours sur le Congrès, dimanche, lors de la fermentation, les représentants ont réélu Nancy Pelosi, qui va demeurer présidente de la Chambre à l'âge de 80 ans pour un autre mandat de 2 ans. Mais cette fois, elle a été élue avec une marge beaucoup plus mince. Puis Kevin McCarthy va rester, lui, quant à lui, leader de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
Voilà une certification des résultats par le Congrès qui s'annonce tumultueuse, mais des résultats qui devraient être connus très bientôt. On y reviendra avec vous, Vincent Gosselin, sur les ondes de choc. Merci beaucoup.
Tout à fait, merci à vous. Au revoir.